Direct en jeu, la Radio Insolite. Nous sommes un média positif. On aime parler de choses qui sont justes, qui sont vraies, qui sont authentiques, qui sont sincères. Puis on aime parler avec des gens qui en valent la peine. Et là, c'est avec un grand plaisir que j'accueille maintenant Yanis. Bonjour Yanis.
Bonjour.
Alors attention, Yanis, on a le même défaut, si je peux me permettre.
C'est-à-dire ?
On est journaliste. Excuse-moi. Je suis désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Tu es journaliste, réalisateur au sein d'un média qui s'appelle Blast.
Oui, c'est bien ça.
Voilà. Qui t'a fait tomber dedans quand t'étais petit ?
Le journalisme ? Ah, c'est une bonne question. Honnêtement, je pourrais pas dire. Je sais pas. Ça a toujours été en moi. Je pense plutôt la curiosité. Je pense que j'ai toujours été curieux. J'ai toujours voulu me confronter au monde. Et le journalisme, c'est le métier qui me permet de faire ça.
D'accord.
Tout simplement.
Ok. Et alors, comme je disais, tu es aussi réalisateur, en particulier, tu es passionné de reportage vidéo et d'investigation.
C'est bien ça.
C'est-à-dire que tu aimes bien les trucs tranquilles, quoi.
Excuse-moi, je t'ai pas entendu.
J'ai dit, c'est-à-dire que tu aimes bien les trucs tranquilles.
Ah, oui, non, mais comme je l'ai dit, j'aime bien. J'ai besoin de me confronter au monde, j'ai besoin de me confronter à la réalité, à ce qui se passe, et ça fait partie de moi. Donc, malheureusement, je n'aime pas les trucs tranquilles.
D'accord. Oui, mais disons qu'au moins, quand même, il y a un avantage, c'est une expression. Et une expression qui est parfois assez juste, si je puis me permettre.
Je t'en prie, dis-moi.
Bah écoute, je trouve que ce que tu dis, il n'y a pas d'interprétation possible. Tu définis ce que c'est que la réalité quand tu parles des films que tu as tournés, entre guillemets. Par exemple, dans l'affaire Colère, le scandale qui a menacé Macron en 2022, tu as été juste. Dans le don du son vers un nouveau scandale, tu as repris des choses qui étaient vraies, quoi. Il y a eu un travail de fond qui a été important.
Oui, bien sûr, bien évidemment. Bah, de toute façon, moi, je vais pas m'amuser à manipuler les faits ou à manipuler ce qui se passe dans notre réalité. Bien évidemment, moi, ce que j'aime, c'est pour raconter cette réalité-là et que les gens se rendent compte de ce qui est en train de se jouer réellement dans nos sociétés, ce qui se passe vraiment. Et si ça, je réussis, je suis quand même plutôt content, en fait, de moi, de mon travail. Je me dis que, voilà, au moins, j'ai servi un tout petit peu à quelque chose.
D'accord. Mais dans le contexte actuel, c'est pas un peu compliqué, ce que tu fais ?
C'est compliqué, oui. Bien évidemment, c'est extrêmement compliqué. Déjà, c'est très compliqué à l'heure des réseaux sociaux, des fake news, de l'intelligence artificielle. C'est très compliqué. On est à l'avènement du smartphone. Aujourd'hui, tout le monde filme tout avec tout et n'importe quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que, par exemple, quand on regarde dans Alice au Pays des Colombes, on filme, on voit que des téléphones autour de moi et moi, je suis tout seul avec ma caméra. Et après, oui, bien évidemment, c'est très compliqué puisqu'on fait face à... Aujourd'hui, le monde auquel on fait face, c'est extrêmement difficile, aussi bien les forces politiques... Que le système, c'est vraiment très dur, quoi, bien sûr. On laisse une partie de soi-même, moi je laisse une grosse partie de moi-même dans mon travail, et ça coûte à ma santé mentale et à ma santé physique, bien évidemment.
D'accord. Tu parlais de caméra, la différence qu'on fait entre un smartphone et une caméra, c'est qu'un smartphone c'est l'instantané, alors que la caméra ça permet de filmer et après de réfléchir à ce que je diffuse.
Bien évidemment, la caméra c'est quelque chose, normalement, c'est un objet avec lequel vous filmez pour que ça reste. C'est vrai que là où le smartphone, c'est un objet où vous filmez pour que ça ne reste pas, c'est très éphémère. Surtout après, si vous publiez sur les réseaux sociaux, la vidéo a une durée de vie extrêmement courte. Et moi, c'est pour ça que je suis content d'avoir fait ce film aussi. J'espère que c'est un film qui va rester pour longtemps et qu'on reverra dans plusieurs années. Et on se rendra compte de ce qui s'était passé à l'époque en Cisjordanie.
D'accord. Alors justement, le sujet, il est un peu particulier, quoi, parce que bon, là, on doit dire que tu sors un film où, comment on pourrait dire, tu fais une confrontation entre deux actrices assez importantes.
Oui, Alice au Pays des Colombes, c'est l'histoire de deux personnes. Donc on a Alice, qui est un peu le personnage principal, qui est chrétienne palestinienne, qui a une particularité, c'est qu'elle possède la nationalité israélienne. Mais ça n'a pas empêché, si vous voulez, les colons de lui voler son terrain. Donc au final, elle reste une Palestinienne aux yeux de l'État israélien, puisque malgré qu'elle ait gagné en justice et qu'elle ait prouvé que le terrain lui appartenait, elle n'a toujours pas récupéré sa terre et elle fait face, dans le film, souvent face aux colons qui sont protégés par l'armée et puis ensuite par la police. Et c'est un peu une espèce de mythe de Sisyphe, quoi, Alice. C'est-à-dire, elle pousse toujours, elle pousse pour essayer de récupérer son terrain. Puis au moment où on croit qu'elle va le récupérer, elle rechute, mais elle lâche pas, elle n'abandonne pas. Et Alice, elle est très en mouvement, donc comme elle a la nationalité israélienne, elle peut se permettre certaines choses, donc elle peut faire face à l'armée physiquement, elle peut faire face à la police, elle peut se permettre de les confronter. Là où l'autre personnage, donc Alanas, avec ses amis, lui est simplement palestinien, il n'a pas la nationalité israélienne, il vit dans le nord de la Cisjordanie. Et lui, c'est complètement différent d'Alice. Il est en danger de mort, en fait, constant, aussi bien par les colons que par l'armée israélienne, parce que son village est entouré de deux colonies qui sont protégées par l'armée israélienne. Et il y a un checkpoint qui l'empêche aussi de se déplacer comme il le souhaite. Et lui, c'est une résistance, on va dire, face à tout ça, plus statique. C'est-à-dire que lui, il décide de rester dans son village avec ses amis, d'y construire sa maison. Et juste le simple fait de rester là où tout le monde leur dit qu'un jour ce village tombera entre les mains des colons israéliens, c'est une forme de résistance en soi. Et donc c'est une espèce de portrait croisé de ces deux personnes qui ne se croisent jamais, mais qui à eux deux incarnent quand même pas mal de pans de la société palestinienne.
D'accord. Je me suis posé la question de savoir s'il fallait regarder cela comme un film ou comme un reportage qui nous parlait un peu des coulisses de ce qu'on ne voit pas.
Bah, moi, je l'ai vraiment pensé. Moi, j'ai essayé de tourner le plus possible comme un film. Après, c'est un film, je dirais que c'est un film du réel, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est vraiment immergé avec eux. C'est pas vraiment un reportage, puisque reportage, si j'avais pris, là, j'ai essayé de prendre vraiment une casquette de réalisateur. Si j'avais pris une casquette de journaliste, j'aurais expliqué, je me serais posé, j'aurais expliqué beaucoup plus de choses. Là, dans ce film, je n'explique quasiment rien. C'est-à-dire que je laisse les gens. Juste avec l'image, découvrir ce qui se passe avec les propos des protagonistes. Si j'avais pris ma casquette de journaliste, j'aurais dû expliquer vraiment Alice, toutes les démarches, pourquoi, le fait que, faut comprendre, mais la Cisjordanie aujourd'hui, c'est morcelé en trois zones, zone C, zone B, zone A. J'aurais dû expliquer ce que ce que sont ces différentes zones. J'aurais dû donner des chiffres, montrer que la colonisation en Cisjordanie s'est accrue, notamment depuis ce qui s'est passé à Gaza. Donc non non non, c'est vrai, j'ai vraiment enlevé la casquette de journaliste, même si ça reste comme c'est du documentaire et c'est du réel, bien évidemment qu'il y a une part de journalisme là-dedans, dans ce que je veux montrer, mais j'ai quand même enlevé une grosse partie de cette casquette-là pour essayer justement de transformer cela le plus possible en film, tout simplement.
Mais comme tu l'as dit, c'est du réel. Je me demande même s'il y
Exactement.
avait un scénario, quoi. Parce que là, on parle de ce qui se passe en ce moment, quoi.
Exactement, c'est du réel. Moi, vraiment, c'est des images. Enfin, j'ai pris le parti, j'y suis allé à la base avec ma caméra, voilà, j'ai tourné. C'est des images très brutes hein, que j'ai mises, c'est-à-dire que même dans les mouvements, dans tout ça, il y a très peu de. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de belles images dans le film. Il y a des beaux paysages, il y a des beaux moments, mais ce n'est pas des images, on va les voir, incroyablement belles, pensées, etc. Je me suis juste dit, il faut que je filme, il faut que je documente. Et ça a été ça la force de mon film, au-delà de le voir comme un film esthétique, beau, qui permet justement de, enfin, comme beaucoup de documentaires aujourd'hui, moi c'est un film très brut et même très brutal. C'est un film à hauteur d'homme, c'est-à-dire c'est la caméra est constamment au niveau de à peu près de mes yeux, donc je me suis même inclus par moments dans le film, c'est-à-dire ces moments où je suis interpellé, je les ai gardés exprès. Pour qu'on n'oublie pas que je suis présent, parce que en fait même moi j'y laisse une partie de moi en fait là-dedans physiquement, comme je me fais souvent bousculer par les policiers, par l'armée, etc. Et l'idée c'est vraiment que le spectateur en regardant le film puisse voir à travers ma caméra ce que moi j'ai vu et ce que j'ai pu aussi ressentir.
D'accord. Est-ce que c'est indiscret de demander en 2025, tu as vécu des moments qui étaient particuliers et parce que tu as été arrêté le 8 juin, si je dis pas de bêtises.
En 2025, tu parles de la flottille, c'est bien ça?
Oui, c'est ça exactement.
Oui, non, bah écoute, non, moi je. Non, t'inquiète, c'est pas du tout indiscret, hein, mais y a pas de. Moi j'ai fait une semaine de prison en Israël parce que je suis monté sur le Madeleine, donc ce petit voilier à l'époque qui voulait se rendre à Gaza pour briser le blocus humanitaire, ce qui est complètement fou de se dire qu'un journaliste aujourd'hui va en prison pour avoir juste fait son travail, j'avais rien fait, c'est-à-dire j'ai pas mené d'action subversive. J'étais pas, je ne sais pas trop comment on pourrait qualifier ce genre d'action, mais j'ai rien fait de fou qui valait que j'aille une semaine en prison. Et puis aussi, quand j'étais sur le bateau, quand l'armée israélienne a accosté le bateau, moi, il y a un soldat israélien qui a pointé son arme sur moi. Voilà, j'avais le laser rouge sur ma poitrine et qui m'a dit baisse ta caméra ou je tire. Donc on en est là aujourd'hui avec avec Israël et avec ce gouvernement où même les journalistes sont criminalisés. Moi j'ai fait une semaine de pri en prison, mais voilà, comme l'a documenté Reporters sans frontières, aujourd'hui c'est entre 250 et 330 journalistes qui ont été tués par Israël. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là et c'est extrêmement dangereux aujourd'hui pour les journalistes de tenter de documenter les exactions qui sont commises par l'armée israélienne ou par ce gouvernement-là. C'est très très dur. Moi j'étais aussi au Liban là il y a quelques semaines. C'était quasiment impossible. J'étais dans le sud et on ne pouvait pas se rendre dans les villages que l'armée israélienne tentait d'annexer parce qu'en fait c'était notre vie qui était en jeu. Voilà. Et donc les journalistes aujourd'hui ne sont pas protégés face à Israël et il y a une telle impunité, c'est-à-dire qu'ils tuent les journalistes et que rien ne se passe. Et ça, c'est extrêmement problématique. Mais c'est une tactique qui est mise en place pour empêcher justement les journalistes de documenter ce qui se passe réellement. Et moi, quand je suis allé en prison en Israël, quand la juge, mon avocate a parlé à la juge lui a bien dit, puisque moi je suis rentré parmi les derniers, et la juge a bien dit que j'étais le dernier à rentrer parce que j'étais journaliste et que c'était une manière justement de faire comprendre aux autres journalistes qu'ils ne pouvaient pas impunément décider de documenter ces actions d'activistes et de militants pacifistes qui tentaient de briser le blocus humanitaire à Gaza, qu'on ne pouvait pas le faire et que si on le faisait, on était en prison, on était emprisonné.
Ça fait pas peur quand on est journaliste d'être carrément reporter de guerre?
Alors, moi, je sais pas si je suis reporter de guerre en soi. Je dirais que je vais là où je dois aller, en fait, tout simplement. Peur, non, je ressens pas, j'ai pas forcément peur, mais disons que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un coup physique et mental qu'il faut porter, quoi. C'est-à-dire que avec tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va raconter, les gens qu'on va rencontrer, les souffrances et puis cette tension permanente dans laquelle vous êtes plongé, enfin c'est pas facile et c'est même assez compliqué. De vivre tout ça. Moi, je dirais pas reporter de guerre parce qu'en fait, j'ai pas un attrait pour aller filmer entre guillemets la guerre. Voilà, il y a des journalistes, ils aiment bien aller dans les zones de guerre pour filmer, etc. Moi, je dirais pas que j'ai un attrait pour aller filmer. J'ai pas envie de ce truc de ouais, je suis journaliste, reporter de guerre. Alors, je vais aller dans les zones en conflit où c'est extrêmement dangereux. Je vais revenir. Enfin, moi, j'ai pas ça. Moi, mon but, c'est vraiment d'essayer à chaque fois de raconter quelque chose. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, il y a un souci. On le raconte pas comme. Enfin. Moi, comment je le perçois, c'est que, par exemple, je suis allé au Liban, je voyais au Liban comment c'était raconté, je me disais, mais il y a un problème, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer dans moi, les contacts que j'ai sur place, c'est ce qu'on me raconte. Donc je me suis dit, je vais aller, je vais essayer de le raconter à ma manière, la réalité à laquelle moi je vais faire face et je vais essayer de le raconter le plus proche possible de cette réalité. C'est surtout ça qui me pousse à y aller et qui me pousse à faire ces choses-là. Quand je vais en Cisjordanie pour tourner Alice au pays des colons, c'est parce que je vois sur les réseaux qu'avec ce qui se passe à Gaza et entre guillemets la tension qui est portée sur Gaza, voilà, Israël en profite pour accentuer la colonisation en Cisjordanie. Et donc je me dis, il faut aller documenter ça, il faut aller raconter ça, il n'y a personne là-bas, je vais aller le faire. C'est vraiment là-dessus que je. Mais après, non, j'ai pas peur. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que à chaque fois que je rentre, j'ai besoin de temps pour. Entre guillemets, redescendre et estimer le coût que ça me prend.
Évidemment, qu'en manière, certains diront que c'est une manière de voir les choses. De l'autre côté, il y a toujours des motifs pour justifier comment est-ce qui se passe dans ces conflits-là, parce que ben, chacun voit la chose comme il le conçoit. Le film, tu t'attends, il sort demain, il va sortir dans beaucoup de salles. Comment ça va se passer?
Non, le film, oui, il sort demain. On a une liste là de sorties nationales. Je crois on a 6 salles au total dans toute la France. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une bande-annonce pour en demandant aux gens de taguer leur cinéma, etc. Ça a rencontré beaucoup de succès. Maintenant, on attend de voir les retours. L'idée, c'est de faire la sortie nationale demain, mais cette sortie n'empêchera pas d'avoir le film dans d'autres cinémas dans les prochaines semaines, quoi. C'est pas juste le 22 il sort et puis après le film passe aux oubliettes. L'idée c'est qu'il y a d'autres cinémas qui vont le programmer, notamment au mois de mai. Donc voilà, après nous, comme je l'ai raconté Je sais pas si tu as vu la bande-annonce qu'on a fait ou que je l'ai un peu raconté aussi ailleurs, c'est que nous, on a reçu des refus, des non catégoriques de tous les distributeurs français de cinéma. Donc c'est très très difficile pour nous de mener entre guillemets cette bataille-là, quoi. C'est-à-dire, et même les cinémas, là, donc nous, on a pris un programmateur après, on s'est mis en distributeur avec Blast. Même lui nous a dit que il était extrêmement difficile de faire accepter le film. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que Blast, en tant que producteur de films, n'est pas du tout reconnu. Il y a mon nom aussi qui n'est pas connu en tant que réalisateur. Et puis je pense aussi il y a le sujet. Enfin, même je pense que la principale raison, c'est le sujet, parce que moi j'ai des mails de gens, de distributeurs, ou qui me disent qu'ils ont adoré le film et que voilà, qu'ils veulent pas commercialiser ce film-là parce que ça serait trop compliqué.
Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je t'avais demandé quand même si tu traduis une certaine réalité, comment dire, là-dessus, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Il y a certains sujets qu'on n'a pas envie de traiter en ce moment. Sinon, on sait
Ouais,
très bien.
bah voilà. Après, je sais qu'aussi le genre documentaire dans le cinéma, c'est très compliqué. Enfin, après, moi, ce film, je l'ai pas fait en espérant un succès en salle, hein, ou même quand on a décidé de le distribuer au cinéma, l'idée, c'était pas d'avoir un succès en salle. Nous, on s'est juste dit, on va le sortir au cinéma pour lui donner une autre ampleur à ce film-là.
D'accord.
Peut-être l'ampleur qu'il mérite et qu'on puisse en parler. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire une interview avec toi.
Ok, bah écoute, moi je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes sur un sujet particulier. On peut le voir où demain?
Alors demain à Paris, il sera à l'Espace Saint-Michel. Après, on a une salle à Lyon, l'Opéra, je crois, c'est l'Opéra de Lyon. Après, je crois qu'on a une salle à Carcassonne, une salle à la Barcelonnette et peut-être la dernière, j'ai oublié. Je sais plus, mais je sais qu'il y a 6 salles à peu près. Mais dans les grandes villes, c'est surtout Paris et Lyon qu'on a sur la sortie nationale.
D'accord.
Après, on aura d'autres salles à Bagnolet. On aura aussi, là, ah non, je crois qu'on a Clermont aussi, Clermont-Ferrand.
Y a un site
Et
internet où on peut retrouver toutes ces infos?
voilà, non, on va les diffuser tout à l'heure sur les réseaux. Tout à
D'accord.
l'heure, ça sera, voilà, d'ici midi, je pense, on aura mis sur les réseaux sociaux, l'ensemble des salles qui vont diffuser le film.
D'accord. Bah écoute, je te remercie.
Bah, merci beaucoup à toi.